La revue de la presse, Fanny Blechner, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à vous qui nous écoutez.
Et à la une ce matin en France, évidemment, le débat de l'entre-deux-tours.
Il aura duré près de 3 heures. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'expriment tour à tour. Et c'est d'abord l'attitude des deux candidats qui est commentée ce matin dans la presse. Macron à l'attaque, Le Pen en défense pour Le Parisien aujourd'hui en France. Tandis que Le Figaro titre, Macron domine, Le Pen tient le choc. Un véritable match donc, où le temps de jeu est compté, tout comme les points égard au carton rouge. Mais par rapport à 2017, le ton est descendu d'un cran, résume le quotidien, tant et si bien que le rythme est monté très doucement. Un débat diesel pour Libération qui parle de second tour de chauffe, mais pour qui la candidate d'extrême droite a manqué de répondants, n'hésitant pas à titrer « toujours pas au niveau », avec un gros plan sur le visage de Marine Le Pen, le regard fuyant. Emmanuel Macron, lui, a limité les dégâts quant à l'arrogance. Le président est apparu plus solide et plus crédible face à ce qu'il qualifie de projet de rétrécissement et a pu dérouler tranquillement son programme, toujours selon Libération.
Et plusieurs journaux, Fanny, font le point sur les thématiques abordées.
Un premier sujet en question, le pouvoir d'achat. Les Échos analysent les prises de position de chacun des deux candidats et estiment que le nouveau contexte de crise risque de percuter des programmes biberonnés au quoi qu'il en coûte. 4 petits encarts dans les pages de Ouest France pour résumer les principaux sujets. 2 façons de doper le pouvoir d'achat, chèque ou TVA, opposition frontale sur le voile, l'ombre portée de Vladimir Poutine ou encore climato-sceptique contre climato-hypocrite. Quels électeurs seront séduits par quel candidat? Le Figaro publie une étude réalisée avec la Fondation Jean Jaurès. On y apprend notamment que le vote Le Pen serait indexé sur la distance aux métropoles et que les villes littorales et touristiques se prononcent en faveur de Macron. Et si la présidente du Rassemblement National l'emportait dimanche au niveau national, plutôt que la politique fiction, l'humanité donne la parole à ceux qui ont subi l'extrême droite, en l'occurrence à l'échelle locale, de Hayange à Hénin-Beaumont. Des identitaires sèment la terreur à Lyon, affirme un élu de la ville, tandis qu'une coprésidente du planning familial parle de menaces pour les droits des femmes. L'opinion voit plus loin que le second tour et se focalise sur le troisième tour. Un dessin humoristique montre Jean-Luc Mélenchon dans un sidecar, casque de moto déjà vissé sur la tête, mais personne sur la selle. Alors que le candidat de la France Insoumise vise les législatives et un poste de Premier ministre. Double page dans le journal Le Monde sur la tentation de l'hégémonie à gauche. Et les Verts auraient cette vision de Jean-Luc Mélenchon en empereur qui domine l'arène, craignant la décision qu'il annoncerait d'un geste du pouce.
Tous ces arguments politiques peut-être pour rien, si on en croit en tout cas Ouest France qui pose cette question. Que se passe-t-il dans le cerveau lors du vote?
Entretien avec un neurologue qui distingue la partie consciente et inconsciente du cerveau, mais nuance. La partie consciente au niveau cérébral avec laquelle nous pouvons faire preuve d'autocritique est toute petite et peu accessible. Notre cerveau a une plus grande sensibilité aux messages émotionnels. Le son même de la voix d'un candidat pourrait nous influencer.
Outre la politique française, les journaux parlent évidemment aussi ce matin, Fanny, de l'Ukraine.
Un dossier est à lire dans Libération, notamment consacré à Mariupol, une ville à l'agonie. Les forces russes comptent en effet s'emparer de la totalité de cette ville. Plusieurs centaines de civils sont toujours retranchés dans l'usine sidérurgique et métallurgique d'Azovstal, avec les 2 dernières unités combattantes à Mariupol, selon les autorités ukrainiennes. La plupart des soldats savent qu'ils ne sortiront pas vivants de cette usine, selon le quotidien, qui estime que la nourriture et les médicaments doivent manquer et cela pourrait signer la chute de Mariupol. Le Monde s'intéresse pour sa part aux élus locaux qui ont su résister en Ukraine et ce malgré les enlèvements et les menaces. L'un d'eux parle de menaces de terroristes. Le Figaro pose la question suivante. Le conflit peut-il faire évoluer le droit de la guerre? Une question pas seulement rhétorique, car je cite, le discours légaliste russe s'accompagne d'une volonté assumée de refonte d'un ordre international fondé sur une interprétation jugée inique des règles juridiques.
Merci Fanny Blechner.